Merci Benjamin. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, donc ça va. Écoutez, Jean-Yves m'a demandé de vous donner donc quelques nouvelles avant de commencer. Je vais donc vous en donner, hein, j'oublie. Oui, bah, je m'excuse parce que bon, j'ai fait une lettre de nouvelles que je n'ai pas envoyée. Vous allez me dire à quoi ça sert. On en reçoit tellement des lettres de nouvelles. Et du coup, je vous l'enverrai cette semaine, promis. Voilà, nous, ça va très bien. Nous déménageons enfin à Aix-les-Bains dans 2 semaines. Donc nous sommes contents. Le Seigneur nous a trouvé un appartement pile poil là où il faut, dans la ville. On est très bien placés. Donc c'est un encouragement pour nous. Et puis nous avons rencontré tellement de personnes à Aix-les-Bains, des chrétiens ou des personnes qui ont côtoyé, fréquenté pendant un temps des églises et qui depuis certaines 5, 10, 15 ans n'ont pas d'église. Et donc quand ils ont entendu parler du projet, ils se sont mis en contact avec nous. Et donc voyant toutes ces personnes qui avaient à cœur de retrouver une vie d'église, on s'est dit pourquoi pas commencer par des cultes pour avoir un premier repère pour ces personnes-là. Et donc grâce à notre très bonne relation avec les autorités de la ville, notamment la mairie, nous avons pu trouver via une association un local que nous louons pour 80 euros par dimanche, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des locaux qui sont à peu près grands comme ici, une salle de réunion, tout équipée. Donc c'est vraiment super pour nous, cette jeune communauté qui est toute naissante, où déjà ensemble on peut se retrouver et enseigner la parole de Dieu, louer Dieu ensemble. Et donc nous aurons notre prochain culte ce soir à 17h, je retourne à Aix-les-Bains, nous avons un culte. Et nous sommes, les 2 derniers dimanches, nous étions à peu près 40 personnes, avec les enfants y compris. Donc vous voyez déjà, c'est super parce qu'on commence en étant déjà une communauté. Alors on est tous plus ou moins bancal, hein. On n'est pas tous en forme, hein. Mais on est une communauté. Hein. Jésus a tiré avant lui d'abord les malades, ceux qui étaient en mauvaise santé. On est cette communauté en mauvaise santé, mais avec un Dieu qui est extraordinaire. Et on le voit déjà à l'œuvre et les portes s'ouvrent avant nous. Et à chaque fois qu'un défi se présente à nous, on se dit mais là, c'est pas possible. Et il y en a un autre qui est juste derrière. Et Dieu fait tomber les barrières devant nous. Si bien qu'on se dit presque, parfois, mais c'est trop facile. On dirait que Dieu vraiment est fidèle. C'est dingue. Voilà. Qui vienne à notre secours, surtout celui au mien de mon incrédulité. Mais c'est vraiment bouleversant pour moi, personnellement, pour nous, avec Marion et Abigail, de vivre ça, c'est super. Et oui, autre info, Marion est enceinte. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc elle est dans le 4e mois, donc voilà, on attend un prochain petit charrier. Voilà, donc vous pouvez prier pour elle et pour moi. Bien, alors, nous rentrons dans ce temps d'adoration de Dieu au travers des Écritures. Et ce matin, nous allons aborder un texte qui est assez difficile. J'ai pris un certain risque. On va avoir du travail ensemble. Donc ceux qui sont fatigués déjà, qui sont en train de s'endormir, qui pensent au repas qui les attend chez eux, vous inquiétez pas, dans 1h30 maximum, vous êtes à la maison. Mais il va ensemble falloir qu'on fasse un effort pour comprendre. Il y a des textes qui sont difficiles dans la Bible, mais où il y a des perles pour nous, pour notre vie chrétienne, pour notre connaissance de Dieu. Et il faut parfois prendre le temps pour comprendre ces textes. Et vous allez voir, dans le texte de ce matin, nous allons avoir aussi plein d'émotions, de belles et des choses plus difficile que nous allons entendre. Donc nous allons faire un petit peu l'ascenseur émotionnel, comme on dit. Vous allez voir des choses magnifiques et des choses qui sont plus difficiles. Et la nature du texte que nous allons voir ensemble ce matin, c'est un texte qui est prophétique. Alors, quand on parle de prophétie, souvent, tout de suite, on se pose plein de questions, on essaye, on se dit, il faut comprendre, deviner les indices qui nous sont donnés pour comprendre ce qui va arriver dans le futur. Souvent, c'est, enfin, moi, c'est comme ça, c'est mon premier réflexe quand on parle de prophétie, c'est quelque chose qui va arriver et il faut essayer de comprendre. Et il y a des personnes qui écrivent des tonnes de bouquins avec des formules mathématiques ou tout plein de choses pour essayer de comprendre dans le texte qui nous est révélé précisément sur les temps à venir. On l'a vu récemment, hein, en décembre 2012, on avait une quantité d'avis qui étaient donnés en prenant les prophéties des Mayas, les prophéties de la Bible et tout plein d'autres choses des astronomes, pour essayer de comprendre quand est-ce que vont arriver les choses qui sont prédites. Mais dans la Bible, le but premier des prophéties, ce n'est pas de donner des informations précises sur ce qui va arriver, mais plutôt, pour Dieu, un moyen de nous montrer qu'il est souverain. Souverain sur l'histoire. Il contrôle l'histoire. Dieu est le Dieu de l'histoire, le Dieu des peuples. Depuis l'origine du monde jusqu'à la fin. Et les prophéties, quand on regarde bien, elles nous en disent plus sur Dieu que sur les choses à venir qui vont être révélées. Et donc, ce matin, nous allons lire un texte donc prophétique. Les destinataires qui reçoivent ce texte, cet enseignement-là, vivent dans un grand contexte de persécution. Nous sommes à la fin du premier siècle. 60 ans à peu près, oui, 60 ans à peu près après la mort de Jésus. Depuis l'an 64, il y a sur l'Empire romain un homme qui règne complètement fou. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le qualifier différemment de ça, c'est comme ça en tout cas que le qualifient les historiens, qui s'appelait Néron. Néron était un homme qui aimait organiser des cafés-concerts le soir dans son palais, et dans les jardins du palais, pour éclairer tout le monde, il faisait brûler des chrétiens sur des torches. Néron avait une haine profonde envers les chrétiens, parce que cet homme voulait imposer à tout le peuple, à tous les peuples, le culte impérial, son culte. Et les chrétiens ne voulaient pas révérer Néron, parce qu'il révérait le Dieu vivant. Et Néron ne supportait pas ça. Et donc les chrétiens ont vu beaucoup de leurs leaders, les apôtres, être persécutés sous le règne de cet homme. Pierre et Paul sont morts en l'an 67, persécutés, décapités. D'autres se sont fait aussi crucifier, d'autres apôtres. Et il y a un autre apôtre qui est Jean, qui lui a été déporté sur une petite île qui s'appelle Patmos, dans laquelle il était prisonnier, pour qu'il arrête d'influencer les églises, notamment les églises d'Asie. Et depuis l'Asie, si tu peux mettre s'il te plaît, voilà. Depuis cette île, pardon, Patmos, Jean va écrire une lettre aux chrétiens d'Asie. Et vous l'avez deviné sûrement, je parle de quel livre ? L'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, à ces personnes qui sont dans un contexte de persécution, Jean est lui-même dans un contexte de persécution, Jésus se révèle dans une vision directement à Jean, et après cette vision glorieuse qu'il a de Jésus-Christ ressuscité, voilà ce que dit Jésus à Jean. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort », c'est Jean qui parle. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, notez bien, et celles qui doivent arriver après elles. » Donc, par les prophéties que va révéler Jean par la suite, non, que va révéler Jésus à Jean par la suite, il veut lui montrer la perspective glorieuse qui attend l'Église qui est persécutée actuellement par Néron. Et puis il veut lui montrer aussi la dynamique que lui-même a au sein de l'Église dans les temps présents. Ces textes prophétiques ne concernent pas uniquement ce qui va se passer à la fin. De toute façon, il n'y a aucun suspense, Dieu va gagner. Hein ? Mais il veut lui montrer comment est-ce qu'il accompagne, il est là. Et Don Carson, qui a écrit un commentaire sur l'Apocalypse, dont je me suis pas mal inspiré aussi dans mon travail, dit ceci, « L'Apocalypse a pour but de nous montrer que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Révélation, en anglais, le titre de l'Apocalypse, et en grec, ça veut dire lever le voile, dévoiler, révéler. Et Jésus veut lever le voile sur l'histoire présente et l'histoire future de l'Église. J'illustre ceci. Si vous demandez à un enfant, là à l'école du dimanche, vous allez lui poser la question, et vous lui dites, mais mon bel enfant, pourquoi, d'où te viennent ces beaux yeux bleus ? Il a bien appris ses leçons d'école du dimanche, il vous dira, c'est Dieu qui me les a donnés. Et ce même enfant, vous le voyez 15 ans plus tard, il est en bac S, il est en train de réviser à fond ses cours de biologie, et si vous lui dites, mon jeune, d'où te viennent tes beaux yeux bleus ? Il vous dira, oui, alors c'est mon père ou ma mère qui doit avoir le gène récessif de la couleur bleue, du coup le phénotype se révèle le bleu chez moi. Enfin, quelque chose, je ne me souviens plus bien de mes cours, mais ça doit être à peu près quelque chose comme ça. Ces deux réponses sont justes, mais laquelle est la plus fondamentale ? Qui a crucifié Jésus ? Le peuple juif ? Le Sanhédrin ? Les soldats romains ? Néron ? Ou le Père qui a envoyé son Fils, qui lui-même s'est livré volontairement à la croix pour payer pour nos péchés et nous racheter. Toutes ces réponses sont justes. Mais il y en a une qui est plus fondamentale. Dans l'Apocalypse, Jésus révèle à Jean les causes fondamentales des choses. Il lève le voile. Et ensemble, nous allons voir ensemble ce texte d'Apocalypse 12. Alors, quand je lis moi-même l'Apocalypse, je me sens un petit peu comme quand je vais visiter une galerie d'art moderne. Je regarde ce qu'il y a en face de moi et je ne comprends rien. Si je vois un monochrome de Whiteman, je verrai quelque chose de blanc. Alors que d'autres verront une belle œuvre d'art. Un Queen Delitzsch, pareil. Toutes ces œuvres d'art, moi, je ne les comprends pas. Et j'ai besoin que quelqu'un qui connaît l'auteur, qui connaît le personnage, qui connaît le contexte dans lequel il était, puisse m'expliquer pour que je puisse saisir l'art moderne. Et donc, quand je lis l'Apocalypse, ma première lecture, en général, je nage dedans. Il y a des questions d'étoiles, de couronnes, de bêtes, tout ça. Enfin, on se dit, mais c'est un langage qui est très loin. Mais bon, pas de panique. Ce matin, nous allons ensemble, je vous propose une méthode, c'est de progresser, d'y aller morceau par morceau. Et vous allez voir, l'Apocalypse puise son vocabulaire et ses symboles dans l'Ancien Testament. Et donc, il faut avoir une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et il y a un principe, vous savez, qu'on applique quand on étudie la Bible, c'est qu'on se dit que la Bible nous permet de comprendre la Bible. Des passages comme ceux de l'Apocalypse qui nous semblent beaucoup plus obscurs, compliqués, il y a d'autres passages qui sont parfaitement clairs et qui nous permettent, en les recroisant, de comprendre ce que là, il veut nous être enseigné. Et puis, nous n'allons pas rentrer, bien sûr, dans chaque détail, mais nous allons essayer d'avoir une vision d'ensemble, surtout pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait donner à ces chrétiens d'Asie qui étaient persécutés par Néron, qu'est-ce qu'il voulait leur faire comprendre, et quels enseignements il y a aussi pour nous, parce que la Bible s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas trop découragés ? C'est bon ? Bon, c'est parce qu'on n'a pas commencé. On y va. Alors, nous allons lire verset par verset, comme je vous l'ai dit, et puis nous allons essayer de comprendre, de prendre les clés de compréhension, et nous avancerons comme ça. Nous commençons avec les deux premiers versets, au chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, qui est cette femme que Jean voit dans le ciel? Je vais faire court. Cette femme représente ce qu'on appelle les commentateurs appellent dans l'Apocalypse la communauté messianique. Tout le peuple de Dieu, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le peuple de ceux qui sont le véritable Israël, comme il est expliqué. Et on trouve ces références à la fois dans Ésaïe, Paul en parle aussi dans l'Épître aux Galates, de ce peuple de Dieu, la communauté qui est rachetée par Dieu, qui est présentée comme une femme. Vous pouvez voir aussi dans Ésaïe 54, c'est Galates 4 notamment. Et simplement un détail qui symbolise un petit peu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous voyez ces 12 étoiles sur sa tête, qui à la fois pour les commentateurs symbolisent les 12 tribus et les 12 apôtres, vous voyez, qui sont là réunis. Et donc on a cette vision glorieuse de cette femme dans le soleil, la lumière. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est enceinte, il y en a qui le sont ici, et elle est en train d'accoucher. Et là, surgit un autre signe paru encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle l'aurait enfanté. Waouh ! Quelle scène ! Que symbolise ce dragon, serpent, rouge, feu ? Il y a plusieurs images, et on verra plus tard, il n'y a pas de suspense, il parle de Satan. Et Satan est présenté ici comme étant un dragon, un monstre, littéralement, si vous préférez. Et les monstres étaient souvent associés dans l'Ancien Testament pour représenter des peuples, un empire puissant. Par exemple, on aurait pu dire pendant la Deuxième Guerre mondiale que le Troisième Reich est un tigre dévorant qui dévore l'Europe. Donc l'influence de Satan sur les peuples. Le serpent, vous le savez, symbolise Satan le menteur, le trompeur. Et puis cette couleur rouge, probablement le sang du meurtrier. Toute l'humanité sous le règne de la mort à cause de lui. Et puis ces couronnes que l'on voit et ces diadèmes, tout simplement symbolisent le pouvoir universel qu'il a sur les rois et les royaumes. Un pouvoir qui est une usurpation en fait, nous allons le voir. Et que fait Satan dans cette scène horrible ? Satan a une implacable fureur contre cette femme qui va accoucher parce qu'il veut dévorer son enfant. Mais qui est son enfant? Le verset suivant nous le dit. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Vous avez compris, dans ce verset, simplement, nous avons le résumé de l'évangile. Jésus venu sur terre, et puis qui à la fin a été élevé à la droite du Père. Et ce verset sous-entend forcément la victoire de Christ. C'est lui qui a la véritable autorité, le bâton de fer, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a la vraie autorité, et qui est ressuscité, qui a vaincu, qui a triomphé. Et comment cela se manifeste dans l'histoire? On voit dans la vie de Jésus, dès sa naissance, à Bethléem, Hérode voulait faire tuer tous les enfants pour être sûr de tuer le Messie. Satan s'acharne contre le Messie. On voit la période de tentation. On voit Nazareth quand ils ont essayé de le précipiter depuis la falaise. Derrière tous ces complots, ces trahisons, Il y a l'influence de Satan qui voulait détruire le Messie. Là, Jésus lève le voile. Et puis, verset 6, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors, vous voyez cette scène, une femme qui est en train d'accoucher, et puis une fois qu'elle a accouché, il y a le règne, il est élevé au ciel, et puis Satan veut s'acharner sur elle maintenant. Et elle fuit dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu pendant une période précise. Alors quel symbole le désert pour les Juifs? On le connaît. Un symbole d'épreuve, un symbole de période de tentation, de difficulté, mais aussi un lieu préparé par Dieu, où Dieu scelle son alliance. Un lieu où Dieu pourvoit à son peuple, où Dieu conduit dans les épreuves, où il lui démontre son amour et le prépare à l'entrée dans la terre promise, pour qu'il soit prêt pour ce moment-là. Dieu est avec son peuple. Et alors cette période de 1260 jours, alors certains font des équations, alors si je rajoute 1 plus 2, machin et tout, on arrive à 666, enfin on arrive toujours à là quand on veut faire ses calculs, comme par hasard. Qu'est-ce que ça symbolise? Si je vous dis 1789, à quoi pensez-vous? Révolution française. Si je vous dis 11 septembre, les attentats. Ces dates, ces chiffres ont une valeur symbolique pour nous. Une valeur symbolique qui est très forte. Pour un juif, quand il entend ce chiffre-là, à quoi ça lui faisait penser? Tout simplement, deux siècles avant la venue de Jésus sur terre, une période dans l'histoire d'Israël qui ne nous est pas racontée dans la Bible, il y a eu l'effondrement de plusieurs empires jusqu'à l'empire grec. Et l'empire grec s'est divisé, s'est morcelé à un moment, s'est effondré sur lui-même, il s'est morcelé en quatre parties. Et il y avait un royaume au nord, grec, et puis un autre au sud. Et Israël s'est retrouvé dans le conflit entre ces deux royaumes et est devenu, si vous voulez, un espèce de no man's land. Et puis, au nord, il y avait un homme qui régnait pendant cette période-là qui s'appelait Antiochos Épiphane, qui détestait le peuple juif parce que lui aussi, il voulait imposer aux juifs le polythéisme et le paganisme. Et donc cet homme a manigancé des choses horribles. Par exemple, il a amené un troupeau de porcs pour les faire égorger dans le temple qui venait d'être reconstruit. Est-ce que vous imaginez l'offense? Imaginez un peuple quelconque qui amène un troupeau de porcs pour les sacrifier à la Mecque. L'offense! Et puis il s'est livré dans une guerre contre les sacrificateurs parce qu'il avait compris que c'était eux, par eux que le peuple allait présenter son pardon à Dieu. Et il a dit, si je les tue tous, ils seront paumés, ils seront perdus, ils devront se soumettre. Et puis parmi ce peuple-là, il y a une famille qu'on appelle les Maccabées, qui s'est rebellée et qui a livré une guérilla. Et au bout de 1260 jours, ils ont réussi à retrouver une certaine indépendance. Alors le parallèle entre Néron et cet homme, Antiochos Épiphane, est facile à faire pour un juif qui lit. Tout de suite, eux, ils ont les clés de compréhension. Et donc, ils savent qu'après la naissance du Messie, sa victoire à la croix, il y a une période de grande persécution. Vous comprenez? Tout de suite, ça devient moins... c'est moins compliqué. Et puis... la caméra, un petit peu, si vous voulez, retourne se braquer dans le ciel et on lit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Waouh, quelle scène encore! Quelle bataille dans le ciel! Mais quand on parle de ciel, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'un lieu géographique ? Est-ce qu'il y a une cosmologie où on se dit, bon, bah, il y a la Terre, et puis après, bon, il y a le ciel, nous, et puis après, il y a le ciel, les étoiles, tout ça, les galaxies, et puis après, il y a une autre, le lieu des dieux, quoi, comme les Grecs le pensaient, un autre ciel. Ce n'est pas le cas. Paul utilise une expression semblable, souvent, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens. Il parle de la victoire de Christ dans les lieux célestes. C'est l'équivalent qu'on a ici. Et ces lieux célestes ne sont pas un lieu géographique, si vous voulez, mais plutôt une dimension. C'est que nous vivons, nous, aujourd'hui, dans une dimension qui est totalement physique, matérielle, mais aussi spirituelle. Ce n'est pas un lieu défini dans un endroit loin quelque part. Vous comprenez ? C'est une dimension spirituelle qui est imagée comme étant le ciel. Et donc, Jean voit cette défaite de Satan. Et la défaite de Satan est un point crucial dans l'Écriture. Ultimement, à la croix, Jésus a vaincu Satan, a vaincu la mort et a vaincu le péché. C'est accompli. Il l'a vaincu. C'est fait. Et là, la caméra est orientée vers le côté spirituel. Et Jean veut montrer à ces chrétiens qui sont dans la persécution que Satan est vaincu. Pour ces chrétiens dans la persécution, quelle vision ! Quel honneur de pouvoir voir ça ! Quel réconfort pour eux ! Et pour nous aussi ! Et ça rappelle que Jésus disait avec anticipation, en Luc 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et Paul explique aux Colossiens que Jésus, à la croix, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu le péché. Mais aussi, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Les hommes ont vu un échec à la croix. Mais c'était la victoire de Dieu sur Satan, sur le péché et sur la mort. Satan est vaincu dans la dimension spirituelle. Et cette histoire décrite par Jésus nous dit que Satan, vaincu dans les lieux spirituels, déchaîne sa fureur sur son Église. Car il sait deux choses. Que désormais, sa sphère d'activité est réduite. Il ne peut plus nous accuser devant Dieu. On va y revenir. Et qu'il lui reste peu de temps. Ça, ce sont les versets 13 à 17 qu'il raconte. Mais nous ne les couvrirons pas ce matin, ce serait trop long. Celui qui nous accusait devant Dieu ne peut plus le faire. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Job ? Le début du livre de Job. Où l'on voit Satan qui se présente devant Dieu et qui accuse Job. Mais Christ a triomphé, aujourd'hui il ne peut plus le faire. Il ne peut plus nous accuser. Satan ne peut désormais agir que sur la terre, et c'est pour ça qu'il se déchaîne. Et vous pourrez dire, mais pourquoi ne rend-il pas les armes s'il est vaincu ? C'est signé, il le sait, pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas ? Mais cette attitude, quand on connaît le caractère de Satan qui nous est décrit dans les Écritures, est en fait complètement logique. Et je voudrais l'illustrer par un fait historique. En 1944, les Alliés ont repris tout le nord de l'Afrique, ils ont débarqué en Italie, et Hitler sait que ça commence à sentir mauvais pour lui. Et puis il y a le débarquement. En 3 jours, j'ai vérifié auprès de notre frère Gavin, que vous savez, prof d'histoire, parce que je n'en croyais pas à mes yeux quand j'ai lu les chiffres. En 3 jours, ils ont Les Alliés, dans le débarquement, ont amené 1 million de soldats. 1 million. Des milliers de tonnes de matériel. Et puis les usines aux États-Unis, en Angleterre, fabriquaient des quantités astronomiques d'acier. La machine était en œuvre. Et Hitler, au moment où il a su que le débarquement avait eu lieu, savait qu'il avait perdu. Tous ses généraux lui disaient de laisser, de signer un traité de paix, d'arrêter, parce que ce n'était pas possible. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Et qu'a fait Hitler ? Il s'est déchaîné. Il a accéléré au maximum les meurtres dans les camps de concentration. Certes, des petites batailles par-ci et par-là étaient remportées, mais peu importe. Il savait que la victoire c'était plié. Les Russes à l'est, les Alliés à l'ouest, il était pris entre les deux. Il avait perdu déjà. Mais parce qu'il a perdu, il s'est déchaîné. Et il y a eu la fameuse bataille des Ardennes, notamment, qui a été une véritable boucherie. Mais il l'avait perdu. Et c'est parce qu'il se savait vaincu qu'il s'est déchaîné. Si Satan se déchaîne contre son Église, sur la terre, contre les hommes, ce n'est pas parce qu'il est surpuissant. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il est une créature limitée. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Mais il se déchaîne parce qu'il sait qu'il est vaincu et qu'il lui reste peu de temps. Alors, comment les chrétiens surmontent-ils la fureur de Satan ? Ces chrétiens d'Asie, cette fureur de Satan qui se manifeste au travers de Néron notamment. Nous lisons la suite. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Première chose que ce texte mentionne, grâce à la victoire qu'a obtenue Christ, c'est que nous avons vaincu sur la base du sang de l'agneau. Et ça, c'est capital pour nous. Nous avons vaincu. Cette formule « à cause du sang de l'agneau » exprime bien plus que le moyen. Ça exprime le fondement de notre victoire. C'est le sang de l'agneau, et nous l'avons chanté encore ce matin. Imaginez une discussion où Satan nous dirait « Tu es trop mauvais, tu ne peux pas être sauvé. » Il nous accuse devant Dieu, mais regarde ta vie. Je sais qui tu es quand tu es seul. Je connais les vices qu'il y a devant toi, franchement, tu te prends pour un chrétien, mais laisse tomber, t'en es pas un. Et qu'est-ce que je devrais lui répondre ? Non, mais si, en fait, je suis comme ça. Non, je n'ai rien à lui répondre. Au contraire, je dirais, oui, je suis comme ça. Mais à cause de ce que Jésus a fait, à cause du sang de l'agneau, je suis sauvé. Je suis sauvé, c'est à cause du sang de l'agneau. J'ai reçu le Saint-Esprit, c'est à cause du sang de l'agneau. Je fais partie de son Église, c'est à cause du sang de l'agneau. Je peux prier Dieu, je peux me présenter devant lui, c'est à cause du sang de l'agneau. J'aurai la vie éternelle, c'est à cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus a triomphé en souffrant en sacrifice pour me racheter. Le sang de l'agneau a coulé pour moi, pour nous. Abondamment, par pure grâce, alors que je ne mérite rien. Et c'est pour ça, précisément pour ça, que chaque jour, en toute chose, je suis totalement dépendant de la grâce de Dieu pour moi. Il y a très peu de temps, nous avons célébré la Pâque. Et pour illustrer un petit peu ça, imaginez une discussion entre M. Dupont et M. Martin, 15 siècles avant la venue de Jésus, en Égypte, quand Moïse est en train de combattre contre Pharaon. Et les Juifs, nous sommes le jour où il y a eu toutes les plaies qui sont venues, et M. Martin et M. Dupont discutent entre eux. Et M. Martin dit à M. Dupont, « Tu as bien mis le sang sur les linteaux de ta porte, le sang de l'agneau, tu l'as mis. Oui, parce que tu sais que ce soir, l'ange de la mort va passer, et puis il va tuer tous les premiers-nés, des hommes et des animaux. » Et l'autre dit, « Oui, je l'ai mis, mais j'ai peur, j'ai très peur. Et j'ai peur que ça ne suffise pas, j'ai peur que quelque chose, que Dieu fasse, que Dieu ne le voit pas, mais j'ai bien mis le sang. » Et là, le premier lui répondrait, « Mais ne t'inquiète pas, à cause du sang de l'agneau, tu ne crains rien. Parce qu'un agneau a été sacrifié, et tu es sous son sang, et Dieu est satisfait. À cause du sang de l'agneau, tu ne crains rien. » Les deux sont sauvés, celui qui doute et celui qui était sûr, parce que l'objet de leur foi était l'agneau. C'est l'objet de notre foi qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions une petite pause avant de conclure sur les deux derniers points, en chantant ensemble « Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. » Merci Jean-Marc. C'est le sang versé par Jésus à la croix, sa mort et sa résurrection, qui est le fondement de tout pour nous. C'est uniquement grâce à ça que nous sommes sauvés. Et grâce à la croix, il a remporté la victoire sur Satan. Donc ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. La version Semeur dit « grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui ». Nous, à Aix-les-Bains, nous sommes dans une situation de réflexion sur l'Église. Et nous nous disons qu'il est important pour nous de réfléchir à la manière d'être sel et lumière dans le monde, de rappeler la volonté de Dieu. C'est un impératif pour nous, faire du bien aux gens, essayer de bénir la ville, de chercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes. Et la question souvent qu'on pourrait se dire, et peut-être que pouvaient se poser ces chrétiens qui étaient persécutés en Asie au 1er siècle, c'était mais que devons-nous faire face à ce déchaînement de fureur de Satan ? Est-ce que nous devons monter une armée et nous battre avec l'épée ? Est-ce que nous devons monter un parti politique pour vaincre ? Est-ce que nous devons créer une association quelconque ? Mener des actions spécifiques, réfléchir à ces choses, je n'ai rien contre. Mais ils ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage. De quelle façon progresse l'Évangile dans le monde ? À cause du témoignage des chrétiens de Jésus-Christ. L'Évangile ne progresse pas selon le plan de Dieu de la Bible, autrement que par le témoignage de l'Évangile. C'est le moyen que Dieu a décidé. Et remettons-nous encore un instant dans la peau de ces chrétiens du 1er siècle. Si Satan est vaincu dans les lieux célestes, Christ règne, pourquoi Dieu le laisse-t-il se déchaîner sur terre, et notamment contre son Église, contre nous ? Pourquoi le jugement de la fin n'a pas eu lieu au moment de la résurrection de Christ ? Pourquoi Dieu laisse-t-il ainsi Satan se déchaîner contre nous et corrompre le monde ? Bien parce que Dieu va en sauver beaucoup d'autres. Et que Christ, le Rédempteur, est à l'œuvre au travers de son Église dans le monde pour annoncer sa victoire. Et que d'autres qui étaient perdus, qui étaient dans les ténèbres, viennent à la lumière. D'autres qui étaient soumis à Satan soient libérés, comme nous dit Colossiens, et soient transférés dans son royaume de lumière. Et comme le disait Jésus lui-même, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous pouvez trouver ce texte en Matthieu 24, 14. Il n'y a que si les chrétiens annoncent l'Évangile que des âmes passent de l'esclavage du péché à la vie éternelle. Satan se les voit arracher et perd parce que Dieu les sauve. Et les chrétiens ne sont pas appelés à se battre contre Satan par l'épée en livrant des guerres saintes ou des choses comme ça, mais en annonçant l'Évangile, en annonçant la victoire de Jésus-Christ. Certes, l'action sociale à laquelle nous réfléchissons à Aix-les-Bains et toutes ces autres choses sont bonnes, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas ça qui change le monde, et que ces choses-là découlent elles-mêmes de l'Évangile. Nous devons annoncer l'Évangile. Et à Carson de conclure ceci en disant, en conséquence, la seule façon pour nous de perdre cette bataille est de rester muet. Notre silence assure dans une certaine mesure la victoire de Satan. Ce n'est pas Dieu qui décourage l'Église d'évangéliser, croyez-moi. Ce n'est pas Dieu qui décourage son Église d'annoncer la bonne nouvelle de sa victoire. Si l'Église est découragée d'évangéliser, c'est parce qu'elle doute de la puissance de l'Évangile. Et souvent, je me suis posé une question au début de ma conversion. Je me suis dit, mais je connais ma vie. Dieu a choisi de me sauver quand j'avais 23 ans. Mais il connaît tout de ma vie, on est d'accord, chaque jour. Et il savait quel jour j'allais mourir. Pourquoi, comme le brigand sur la croix, ne m'a-t-il pas sauvé à un jour, une semaine de ma mort? Pourquoi a-t-il décidé de me sauver maintenant? Pour que je sois son témoin. Pour que je puisse témoigner de la grâce qui m'a été faite aux autres. Que je puisse témoigner de ce qu'était ma vie et de ce qu'il a fait et comme il m'a transformé, qui m'a sauvé par pure grâce. Je suis là pour témoigner. Alors, posons-nous les questions qui dérangent. Nous avons chanté ce matin même. J'ai envie de crier au monde entier toutes les merveilles que tu as faites. À quand remonte la dernière fois que vous avez partagé l'évangile à un de vos amis, à un des membres de votre famille? Combien de fois ai-je eu l'occasion de pouvoir témoigner de l'évangile et je ne l'ai pas saisi? Combien de fois? Et ça m'attriste. Est-ce que ma vie chrétienne me coupe de ceux qui autour de moi sont perdus? Certains frères et sœurs n'ont même pas d'amis à qui ils puissent témoigner, tellement ils sont coupés de ceux qui sont perdus. À quand remonte la dernière fois où j'ai pu témoigner du message du salut, complètement, généreusement, en discutant avec mon coiffeur ou avec mon pote au travail, avec mon voisin qu'on se connaît depuis tant d'années? Et si nous sommes remis en question, et moi le premier, ce matin encore, je me repentais pour ça, regardons le dernier point. Ils ont vaincu Satan en n'aimant pas leur vie jusqu'à la mort. Ils ont remporté la victoire sur le diable simplement parce qu'ils étaient prêts à mourir pour les intérêts de Christ. Quel choc pour nous! Nous avons une vision de notre confort et de notre vie qui est complètement différente de celle des chrétiens du premier siècle. Par la grâce de Dieu, nous ne vivons pas dans un contexte, nous, de persécution. Et justement, peut-être que c'est ce qui nous fait oublier nos frères et sœurs qui sont persécutés. Parce que pour eux, la question de la fidélité à Jésus est une question de vie ou de mort. Et pas de « je me sens mal à l'aise de parler à mon pote au travail ». Pour eux, c'est plutôt mourir que de ne pas pouvoir témoigner. Quand Paul disait, quand il était lui-même persécuté, qu'il a été lapidé, on lui a interdit, on l'a chassé maintes et maintes fois, il a connu tant de souffrances, et il finit emprisonné, il dit depuis sa prison, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain ». Autrement dit, vivre l'évangile et l'annoncer, c'est ça ma vie. Le menacer de mort, vous l'avez compris, n'avait aucun effet sur lui. Parce que c'est Christ, sa vie. Et nous savons aujourd'hui que dans certaines parties du monde, comme j'ai dit, la fidélité coûte la vie. 160 000 chrétiens sont torturés et assassinés au nom de leur témoignage chaque année. 2 millions de chrétiens ont été assassinés et torturés au Soudan au cours de ces 15 dernières années, pour leur foi en Jésus. Il leur aurait juste suffi qu'ils se taisent, qu'ils fassent semblant d'être quelqu'un d'autre, qu'ils cachent bien leur Bible, mais ils n'ont pas voulu. Un chrétien sur 200 sera tué à cause de sa foi cette année, dans le monde. Imaginez, là nous sommes combien? Pas loin? peut-être. Ça pourrait être moi. Les chrétiens sont la première population victime de persécution dans le monde. C'est une réalité. Une réalité. Et certes, nous jouissons d'un confort et d'une liberté, mais en France, aussi, pour réduire au silence les chrétiens, on peut nous menacer de perte d'emploi, de moquerie, de sarcasme. Un ami, pasteur dans les Vosges, a eu sa fille qui, pendant 2 ans, se faisait racketter à l'école, se faisait cracher dessus tous les jours par une bande parce que précisément son père était pasteur pendant 2 ans. Et cette petite n'a rien voulu dire à son père. Et quand son père a découvert ça, il lui a dit « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Et sa fille, sa jeune fille, qui est chrétienne, a dit « Parce que je veux que tu puisses continuer ton travail, papa. » J'ai un frère en Europe qui a des hautes fonctions, très hautes fonctions, c'est un personnage public. Et il a un ministère d'évangéliste. Et c'est connu dans son pays que la semaine, il travaille, et le week-end, il annonce l'évangile, parfois dans d'autres églises. Et il y a un autre personnage public qui l'a attaqué dans le journal, en citant son nom, en disant qu'il était dans une secte évangélique, et qu'il devrait y demander publiquement sa démission. Que faire? Que faire? Nous sommes tous tentés d'édulcorer, de cacher, de dissimuler. Mais quand on lit l'Évangile, on est confronté par l'appel de Jésus. Celui qui veut suivre, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il meure chaque jour à lui-même et qu'il porte sa croix. Est-ce que vous êtes prêts, vous qui voulez me suivre, à renoncer à vos intérêts jusqu'à la mort pour chercher avant tout dans votre vie mes intérêts? Parce que c'est ça être mon disciple. Le renoncement à soi, qui fait partie intégrante de la nature même de notre appel à suivre Jésus, est également un des 3 moyens pour vaincre le diable. Satan est rempli de fureur, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Comment peut-on enrayer un mouvement dont les membres, par la grâce fortifiante de Dieu, se savent justifiés et sauvés? Annonçant le message qui peut sauver des vies autour d'eux, et qui sont prêts à mourir à leur intérêt personnel pour ceux de celui qui les a sauvés. Je crois que nous avons là beaucoup de matière à réflexion, et je vous propose qu'ensemble, pour conclure, nous nous levions et que nous prions. Seigneur Dieu, garde-nous de nous sentir trop à l'aise dans notre société de facilité et d'agitation au point d'oublier la dimension la plus fondamentale de la vie chrétienne, qui est que tu as vaincu sur Satan, sur la mort et sur le péché. Ramène-nous à la croix, Seigneur, renouvelle en nous le désir brûlant de proclamer fidèlement le glorieux message de l'Évangile. Réapprends-nous à mourir à nous-mêmes. Réapprends-nous, Seigneur, afin de te suivre, toi qui es mort pour nous et qui es ressuscité. Garde-nous de surestimer la puissance de l'ennemi. Et garde-nous aussi de l'ignorer, mais de toujours tourner les yeux vers toi.
Merci de nous avoir révélé ta glorieuse victoire. Merci Seigneur. Et nous savons que tu vas revenir. Et nous avons ce privilège d'être ici-bas encore pour pouvoir témoigner à tous ceux qui nous entourent que tu as triomphé. Tu es dans ta gloire. Tu es le roi des rois. Et c'est toi qui as toute autorité au siècle des siècles. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Amen.